Vous écoutez France Culture.
Les Misérables de Victor Hugo. Adapté par Hélène Bleskin, réalisé par François Christophe. Musique originale de Krishna Levy. Dixième épisode.
Marius et Cosette se sont avoués leur amour dans le jardin de la maison louée par Jean Valjean, rue Plumet. Au printemps de 1832, dans Paris menacé par le souffle du choléra, Gavroche recueille deux enfants dans l'éléphant de la Bastille. Thénardier, sorti de prison, rôde avec ses comparses autour de la maison de Jean Valjean. Éponine, sa fille, réussit à les éloigner. Dans le jardin, Cosette, désespérée, dit à Marius qu'elle va partir en Angleterre avec son père.
Le père Gillenormand demeurait toujours rue des Filles du Calvaire, numéro 6, dans cette vieille maison qui était à lui. Depuis 4 ans, il attendait Marius de pied ferme. Ce n'était pas la mort qui lui était insupportable, c'était l'idée que peut-être il ne le reverrait plus. Il songeait à lui amoureusement et amèrement. Au plus profond de sa rêverie, son vieux domestique, Basque, entra.
« Monsieur peut-il recevoir Monsieur Marius ?»«
Faites entrer. » Qu'est-ce que vous me voulez ?
Monsieur, je sais que ma présence vous déplaît, mais je viens seulement pour vous demander une chose, et puis je vais m'en aller tout de suite. Je viens vous demander la permission de me marier.
Vous marier ? À 21 ans ? Vous avez un état ? Une fortune faite ? Combien gagnez-vous dans votre métier d'avocat ?
Rien.
Alors je comprends. C'est que la fille est riche.
Comme moi.
Et quoi, pas de dot ?
Non.
Toute nue. Et qu'est-ce que c'est que le père ?
Je ne sais pas.
Et comment s'appelle-t-elle ?
Mademoiselle Fauchelevent.
Ah, vous vous êtes dit, pardine, je vais aller trouver cette vieille perruque, cette absurde ganache. Va, mon garçon, comme tu voudras. Attache-toi ton pavé. Épouse ta Pousselevent, ta Coupelevent. Jamais, monsieur. Jamais.
Mon père.
Marius perdit tout espoir. Il traversa la chambre à pas lents. Monsieur Gillenormand fit 4 pas et le saisit au collet.
Allons, voyons. Parle. Conte-moi tes amourettes, dis-moi tout, sapristi.
C'était ce seul mot. Mon père,
si vous saviez,
qui avait fait cette révolution.
Je l'aime. Vous ne vous figurez pas, la première fois que je l'ai vue, c'était au Luxembourg. Elle y venait. Je ne sais pas comment cela s'est fait. J'en suis devenu amoureux. Enfin, je la vois maintenant. Tous les jours, chez elle. Son père ne sait pas. C'est dans le jardin que nous nous voyons. Imaginez qu'ils vont partir. Son père veut l'emmener en Angleterre. Alors je me suis dit... Je vais aller voir mon grand-père. Il faut absolument que je l'épouse.
Marius, je trouve ça très bien qu'un jeune homme comme toi soit amoureux, c'est ton âge. Je t'aime mieux amoureux que Jacobin. Quant à la petite, elle te reçoit en cachette du papa, c'est dans l'ordre. J'ai eu des histoires comme ça, moi aussi. Sais-tu ce qu'on fait ? On ne prend pas la chose avec férocité, on ne se précipite pas dans le tragique, on a du bon sens. Glissez, mortel, n'épousez pas. Tu me comprends ? Va, mon garçon. Voilà 200 pistoles, amuse-toi, bandit. Fais-en ta maîtresse.
Il y a 5 ans, vous avez outragé mon père. Aujourd'hui, vous outragez ma femme. Je ne vous demande plus rien, monsieur. Adieu.
Au secours! Courez après lui! Qu'est-ce que je lui ai fait? Il s'en va. Cette fois, il ne reviendra plus. Marius! Marius!
Ce même jour, vers 4 heures de l'après-midi, Jean Valjean était assis seul sur le revers de l'un des talus les plus solitaires du Champ de Mars. Il était à présent calme et heureux du côté de Cosette, Mais depuis une semaine, des anxiétés d'une autre nature lui étaient venues. Un jour, en se promenant sur le boulevard, il avait aperçu Thénardier. Il avait la certitude qu'il rôdait dans le quartier. Thénardier, là, c'était tous les périls à la fois. En outre, Paris n'était pas tranquille. Les troubles politiques offraient cet inconvénient pour quiconque avait quelque chose à cacher dans sa vie. La police était devenue très ombrageuse. Enfin, un fait inexplicable avait ajouté à son éveil. Le matin de ce même jour, se promenant dans le jardin, il avait aperçu cette ligne gravée sur la muraille, 16 rue de la Verrerie. Cela était tout récent. Qu'était-ce ? Une adresse ? Un avertissement pour lui ? Jean Valjean rentra chez lui, tout pensif. Marius était parti désolé de chez M. Gillenormand. Il y était entré avec une espérance bien petite. Il en sortait avec un désespoir immense. Il se mit à marcher dans les rues, ressource de ceux qui souffrent. À 2 heures du matin, il rentra chez Courfeyrac et se jeta tout habillé sur son matelas. Quand il se réveilla, il vit debout dans la chambre, le chapeau sur la tête, tout prêt à sortir et très affairé, Courfeyrac, Enjolras, Feuilly et Combeferre.
Viens-tu à l'enterrement du général Lamarque ? Allez.
Il sortit quelque temps après eux. Il mit dans sa poche les pistolets que Javert lui avait confiés lors de l'aventure du 3 février et qui étaient restés entre ses mains. Toute la journée, il rôda sans savoir où. Il n'avait plus qu'une idée claire, c'est qu'à 9 heures, il verrait Cosette. Ce dernier bonheur était maintenant tout son avenir. Par intervalles, tout en marchant, il lui semblait entendre dans Paris des bruits étranges.
Est-ce qu'on se bat ?
À la nuit tombante, il était rue Plumet. Il dérangea la grille et se précipita dans le jardin. Cosette n'était pas à la place où elle l'attendait d'ordinaire. Il s'assit sur les marches du perron, le cœur plein de douleur et de résolution. Il se dit que, puisque Cosette était partie, il n'avait plus qu'à mourir. Tout à coup, il entendit une voix qui paraissait venir de la rue.
Monsieur Marius, vous êtes là ?
Oui.
Monsieur Marius, vos amis vous attendent à la barricade de la rue de la Chanvrerie.
Au printemps de 1832, Paris était dès longtemps prêt pour une commotion. La grande ville ressemble à une pièce de canon. Quand elle est chargée, il suffit d'une étincelle qui tombe, le coup part. L'étincelle fut la mort du général Lamarque. Lamarque était un homme de renommée et d'action. Il avait eu successivement, sous l'Empire et sous la Restauration, les deux bravoures nécessaires aux deux époques, la bravoure des champs de bataille et la bravoure de la tribune. Sa mort prévue était redoutée du peuple comme une perte et du gouvernement comme une occasion. Cette mort fut un deuil. Comme tout ce qui est amer, le deuil peut se tourner en révolte. C'est ce qui arriva. Le corbillard était traîné par des jeunes gens. Le cortège chemina avec une lenteur fébrile de la maison mortuaire jusqu'à la Bastille. Les longues files de curieux redoutables firent leur jonction avec le cortège, et un certain bouillonnement terrible commença à soulever la foule. Cependant, sur la rive gauche, la cavalerie municipale s'ébranlait et venait barrer le pont. Que se passa-t-il dans cette minute fatale ? Personne ne saurait le dire. Le fait est que 3 coups de feu partirent subitement, et tout à coup on vit un escadron de dragons déboucher au galop, le sabre nu et balayer tout devant lui. Alors, tout est dit. La tempête se déchaîne. La foule se disperse, on crie « Aux armes !» La colère emporte l'émeute comme le vent emporte le feu. Rien n'est plus extraordinaire que le premier fourmillement d'une émeute. Début plein d'épouvante où se mêle une sorte de gaieté formidable. En moins d'une heure, 27 barricades sortirent de terre dans le seul quartier des Halles. L'insurrection s'était fait du centre de Paris une sorte de citadelle inextricable, tortueuse, colossale. Rien n'est plus étrange. Et c'est là le caractère propre des émeutes de Paris qui ne se retrouve dans aucune autre capitale. Il faut pour cela deux choses, la grandeur de Paris et sa gaieté. Il faut la ville de Voltaire et de Napoléon. Cette fois cependant, dans la prise d'armes du 5 juin 1832, la grande ville sentit quelque chose qui était peut-être plus fort qu'elle. En ce moment, un enfant déguenillé qui descendait de la rue Ménilmontant, tenant à la main une branche de faux ébénier en fleurs qu'il venait de cueillir sur les hauteurs de Belleville, avisa dans la devanture d'une boutique d'une marchande de bric-à-brac un vieux pistolet d'arçon. Il jeta sa branche fleurie sur le pavé et cria
« Première chose, je vous en prends votre machin !»
C'était le petit Gavroche qui s'en allait en guerre. Cependant, au marché Saint-Jean, dont le poste était désarmé, Gavroche venait d'opérer sa jonction avec une bande conduite par Enjolras, Courfeyrac, Combeferre et Feuilly. Un cortège tumultueux les accompagnait, étudiants, artistes, ouvriers, gens du port, armés de bâtons et de baïonnettes. Le rassemblement avait pris par la rue de la Verrerie. Le petit Gavroche marchait en avant. Il se dirigeait vers Saint-Méry. La bande grossissait à chaque instant. Les Parisiens, aujourd'hui, en entrant dans la rue Rambuteau du côté des Halles, ne se doutent guère des scènes terribles que ce même emplacement a vues il y a à peine 30 ans. C'était là qu'était la rue de la Chanvrerie et le cabaret célèbre appelé Corinthe. Les journaux du temps qui ont dit que la barricade de la rue de la Chanvrerie, cette construction presque inexpugnable, comme ils l'appellent, atteignait au niveau d'un premier étage, se sont trompés. Le fait est qu'elle ne dépassait pas une hauteur moyenne de 6 ou 7 pieds. Elle était bâtie de manière que les combattants pouvaient, à volonté, ou disparaître derrière, ou dominer le barrage et même en escalader la crête au moyen d'une quadruple rangée de pavés superposés et arrangés en gradins à l'intérieur. Tout ce travail se fit sans empêchement en moins d'une heure et sans que cette poignée d'hommes hardis vît surgir un bonnet à poils ni une baïonnette. Les deux barricades terminées, le drapeau arboré, Enjolras apporta le coffre carré. Ce coffre était rempli de cartouches. Quand on les vit, il y eut un tressaillement parmi les plus braves et un moment de silence. Courfeyrac les distribua en souriant. On chargea les fusils, tous ensemble, sans précipitation, avec une gravité solennelle. Puis, ils attendirent. Et que firent-ils? Il faut bien que nous le disions, puisque ceci est de l'histoire. Ces beaux jeunes gens, si voisins d'une heure suprême, se mirent à dire des vers d'amour.
Nous vivions cachés, contents, porte close, dévorant l'amour, bon fruit défendu. Ma bouche n'avait pas dit une chose que déjà ton cœur avait répondu.
La Sorbonne était l'endroit bucolique où je t'adorais du soir au matin. C'est ainsi qu'une âme amoureuse applique la carte du temps au pays latin.
La nuit était tout à fait tombée. Rien ne venait. On n'entendait que des rumeurs confuses et par instants des fusillades, mais rares. Ce répit qui se prolongeait était signe que le gouvernement prenait son temps et ramassait ses forces. Ces 50 hommes en attendaient 60 000. Gavroche, en ce moment, était fort préoccupé.
Tu es petit, on ne te verra pas. Sors des barricades, glisse-toi le long des maisons, va un peu partout par les rues, et reviens me dire ce qui se passe.
Les petits sont donc bons à quelque chose. C'est bien heureux. J'y vais. En attendant, fiez-vous aux petits. Méfiez-vous des grands. Vous voyez bien ce grand-là?
Eh bien?
C'est un mouchard.
Tu es sûr?
Il n'y a pas 15 jours qu'il m'a enlevé par l'oreille de la corniche du pont royal où je prenais l'air.
Enjolras murmura quelques mots très bas à un ouvrier du port au vin qui se trouvait là. L'ouvrier sortit de la salle et y rentra, accompagné de trois autres. Ces quatre hommes allèrent se placer, sans rien faire qui pût attirer son attention, derrière la table où était accoudé l'homme.
Qui êtes-vous ? Vous êtes un mouchard ?
Je suis agent de l'autorité.
Vous vous appelez ?
Javert.
Hé ! Hey !
Enjolras fit signe aux quatre hommes. En un clin d'œil, Javert fut colleté, terrassé, garrotté.
C'est la souris qui a pris le chat.
Vous serez fusillé 2 minutes avant que la barricade soit prise.
Pourquoi pas tout de suite ?
Nous ménageons la poudre.
Alors finissez-en d'un coup de couteau.
Nous sommes des juges et non des assassins. Et toi, Gavroche, va à ton affaire. Fais ce que je t'ai dit.
J'y vais.
Monsieur Marius, vos amis vous attendent à la barricade de la rue de la Chanvrerie.
Cette voix qui, à travers le crépuscule, avait appelé Marius à la barricade de la rue de la Chanvrerie, lui avait fait l'effet de la voix de la destinée. Il voulait mourir. L'occasion s'offrait. Il se mit à marcher rapidement, il arriva au hall. Là, tout était plus calme. On eût dit que la paix glaciale du sépulcre était sortie de terre et s'était répandue sous le ciel. 10 heures avaient sonné à Saint-Méry. Enjolras et Combeferre étaient allés s'asseoir, la carabine à la main, près de la coupure de la grande barricade.
C'est Gavroche.
Et voici mon fusil.
Révolution française!
Une effroyable détonation éclata sur la barricade.
Camarade!
Le drapeau rouge tomba.
Ne perdons pas la poudre. Attendons pour riposter, qu'il soit engagé dans la rue.
Et avant tout, relevons le drapeau. Qu'est-ce qu'il y a du cœur ici? Personne ne se présente?
Moi! C'est le conventionnel, le représentant du peuple.
Vive la révolution! Fraternité! Égalité! Et la mort! Vive la République!
Une seconde décharge s'abattit sur la barricade. Le vieillard fléchit sur ses genoux. Sa vieille tête, pâle et triste, semblait regarder le ciel.
Je l'ai connu. Il s'appelait le père Mabeuf.
Citoyens, ceci est l'exemple que les vieux donnent aux jeunes.
Méfiez-vous!
On apercevait une étincelante épaisseur de baïonnettes ondulante au-dessus de la barricade. Des gardes municipaux de haute taille pénétraient, poussant devant eux le gamin qui reculait, mais ne fuyait pas. L'instant était critique. Avant qu'une baïonnette eût touché Gavroche, une balle avait frappé le garde municipal. Une seconde balle frappait en pleine poitrine l'autre garde qui avait assailli Courfeyrac et le jetait sur le pavé. C'était Marius qui entrait dans la barricade. Au coup de feu, les assaillants avaient gravi le retranchement. Ils couvraient déjà plus des 2/3 du barrage, mais ils ne sautaient pas dans l'enceinte. Ils regardaient dans la barricade obscure comme on regarderait dans une tanière de lion. Marius n'avait plus d'armes. Il avait jeté ses pistolets déchargés, mais il avait aperçu le baril de poudre dans la salle basse près de la porte. Comme il se tournait à demi, un soldat le coucha en joue, mais une main se posa sur le bout du canon du fusil et le boucha. C'était quelqu'un qui s'était élancé, un jeune ouvrier au pantalon de velours. Le coup partit, traversa la main et peut-être aussi l'ouvrier, car il tomba. Mais la balle n'atteignit pas Marius et il s'en aperçut à peine.
Allez-vous-en, ou je fais sauter la barricade!
Marius, après l'octogénaire, c'était la vision de la jeune révolution après l'apparition de la vieille. Il approcha une torche du baril de poudre, mais il n'y avait plus personne sur le barrage. Les assaillants refluaient pêle-mêle vers l'extrémité de la rue et s'y perdaient de nouveau dans la nuit. La barricade était dégagée.
Ah, te voilà!
Tous entourèrent Marius.
Quel bonheur!
Tu es venu à propos.
Sans toi, j'étais mort.
Sans vous, j'étais gobé.
Toute l'attention des insurgés se portait du côté de la grande barricade, qui était évidemment le point toujours menacé. Marius, pourtant, songea à la petite barricade et y alla. Il entendit son nom faiblement prononcé dans l'obscurité.
Monsieur Marius, vous ne me reconnaissez pas ?
Non.
Éponine ?
Que faites-vous là ?
Je meurs.
Vous êtes blessée ? Attendez, je vais vous porter dans la salle. Est-ce grave ? Vous ai-je fait mal ? Mais je n'ai touché que votre main. Qu'avez-vous donc à la main ?
Elle est percée d'une balle. Avez-vous vu un fusil qui vous couchait en joue ?
Oui. Et une main qui l'a bouchée ?
C'était la mienne.
Quelle folie ! Pauvre enfant, laissez-moi vous porter sur un lit. On ne meurt pas d'une main percée.
La balle a traversé la main, mais elle est sortie par le dos. C'est inutile de m'ôter d'ici. Asseyez-vous près de moi sur cette pierre. Comme on est bien. Voilà. Je ne souffre plus.
En ce moment, la voix de jeune coq du petit Gavroche retentit dans la barricade.
Mon frère est là. Il ne faut pas qu'il me voie. Il me gronderait.
Votre frère ?
Ne vous en allez pas. Ce ne sera pas long maintenant. Écoutez, j'ai dans ma poche une lettre pour vous. Prenez. Maintenant, pour ma peine, promettez-moi...
Je vous promets.
Promettez-moi de me donner un baiser sur le front quand je serai morte. Je le sentirai. Et puis, tenez, monsieur Marius, je crois que j'étais un peu amoureuse de vous.
Marius tint sa promesse. Il déposa un baiser sur ce front livide où perlait une sueur glacée. Il la reposa doucement sur la terre et s'en alla.
C'était Les Misérables de Victor Hugo, adapté par Hélène Bleskine. 10e épisode. Avec Philippe Magnan, le narrateur, Jean-Marie Vining, Jean Valjean, Clément Bondu, Marius, Jean-Gabriel Nordman, Monsieur Gillenormand, Florence Loirecaille, Éponine, Vincent Schmitt, Javert, Rémi Goutalier, Gavroche, Emmanuel Lemire, Enjolras, Roland Timsit, Courfeyrac, Philippe Bautier, L'Aigle, Niki Marbeau, Combeferre, Georges Serre, Monsieur Mabeuf. Et les voix de Séguir Mohamedi, Jacques Poitérier, Pierre Yvon, Michel Baladi, Bertrand Suarez-Passos et Myriam Ajar. Musique originale composée par Krishna Lévy. Interprétée par Françoise Guéry, Christophe Guillot, Laurent Lefebvre, Philippe Nadal et Françoise de Maubus. Bruitage Patrick Martinache et Jean-François Bernard Sugy. Prise de son montage mixage Catherine Dérété et Sébastien Labarre. Assistante à la réalisation Laure-Hélène Planchet. Réalisation François Christophe.